VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. La Cour d'appel de San Francisco en Californie va entendre aujourd'hui dans l'après-midi les partisans et adversaires du décret du président Donald Trump interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Jean-Roger Bion fait le point.
Les États de Washington et du Minnesota à l'origine de la plainte qui a débouché sur un ordre de suspension temporaire de l'application du décret rendu par un juge fédéral de Seattle et l'administration Trump qui a fait appel de cette décision ont fourni des documents à la Cour dans la journée de lundi. Celle-ci a décidé d'écouter une présentation orale des arguments des deux camps mardi à 15h, 23h GMT avant de rendre sa décision. Bob Ferguson, le procureur général de l'État de Washington, s'est dit confiant. Dans un tribunal, ce n'est pas la voix la plus forte qui s'impose, c'est la Constitution, a-t-il déclaré. Si l'appel du département de la justice n'aboutit pas, l'administration Trump devra se tourner vers la Cour suprême pour tenter de faire appliquer à nouveau le décret controversé.
Actualité américaine toujours, en visite hier au siège en Floride du CENTCOM, le centre de commandement militaire américain, notamment pour le Moyen-Orient, le président Donald Trump a réitéré sa détermination de renforcer les contrôles aux frontières pour lutter contre le terrorisme. Les détails avec Claire Morin-Gibault.
Sans donner de détails sur sa stratégie, Donald Trump a assuré que les États-Unis et leurs alliés vaincraient le terrorisme islamique radical. Il a ajouté... Nous envoyons un message uni à ces forces de mort et de destruction. L'Amérique et ses alliés vous vaincront. Le président républicain a signé fin janvier un décret donnant jusqu'à fin février à ses responsables militaires pour lui présenter un plan détaillant une stratégie exhaustive pour vaincre le groupe État islamique. Le CENTCOM a mené près de 18 000 frappes en Syrie et en Irak depuis le début, en août 2014, des opérations de la coalition internationale dirigée par les Américains contre le groupe État islamique.
Afrique maintenant, RDC, de nombreux quartiers de Kinshasa sont inondés ce mardi à la suite d'une brusque montée des eaux provoquée par un violent orage et on craint des pertes en vie humaine. Selon des habitants joints par l'AFP, les rivières Makelele et Kalamu dans les quartiers du centre de la capitale congolaise ont débordé. Rappelons que fin 2015, plusieurs dizaines de personnes étaient mortes à la suite de pluies violentes sur Kinshasa. Au Cameroun, la reprise des cours se fait timidement dans les régions anglophones, en dépit du fait que les établissements d'enseignement devaient y rouvrir leurs portes depuis hier. Pourtant, le gouvernement avait informé la population dès le week-end dernier sur les antennes de la radio nationale que le mot d'ordre de grève était levé. Le point avec Emmanuel Jules Tappe, le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, au micro de John Lyndon.
Alors, il faut dire que la date du 6 février 2017 qui était annoncée comme étant celle de la reprise de cours dans les deux zones anglophones du Cameroun qui étaient paralysées et qui restent encore paralysées par le mouvement de grève depuis le 21 novembre, il faut dire que la reprise de cours n'a pas été effective normalement comme le souhaitait le gouvernement et même l'esprit et la lettre du communiqué qui a été rendu public samedi dernier. Les sources que nous avons contactées à Panenda, soit des sources officielles ou bien des journalistes que nous ont fait part de ce que un mouvement appelant à une ville morte, a été largement suivi, ce qui fait donc que la reprise des cours normale n'a pas été effective hier à Bamenda, à Boya, ainsi que dans les autres principales villes de ces deux régions anglophones du Cap.
Alors, on parle également des tracts qui sont distribués dans la ville et qui appellent aux journées ville morte. Qu'est-ce qu'il en est réellement?
Alors, il faut dire que c'est une nébuleuse, mais qui est réelle, en ce sens que les gens sont effectivement en possession des tracts, mais on ne sait pas qui se casse derrière. Il y en est véritablement le commanditaire. Les tracts appellent à trois journées de ville morte. Il y a la journée du 6 février, il y a la journée du 10 février et la journée du 11 février. Pour la date du 10, il faut préciser que ce sont là des dates stratégiques. Parce que le 10 février, on a un jour de la célébration de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Et naturellement, le 11 février est une journée fériée au Cameroun, au cours de laquelle toute la jeunesse du Cameroun est mobilisée à prendre part à toute une fête en mémoire de la jeunesse. Je voudrais préciser que la date du 11 février symbolise cette date de rattachement du Cameroun qui était sous la direction du Nigeria à l'autre partie du Cameroun sous administration française. Et les commanditaires donc des grèves, que ce soit des enseignants ou des avocats qui sont dans une logique de sécession et de fédéralisme ne voudraient pas que cette fête-là puisse être célébrée dans les deux zones anglophones. Au fur et à mesure qu'on s'approche donc de cette fête, il y a donc cette manœuvre-là, les tracts, qui font en sorte que, visiblement, les parents ont peur, ce d'autant plus qu'au cours de la nuit de dimanche à lundi, il nous a été rapporté, nous avons vérifié d'ailleurs cette information, qu'il y a un bâtiment administratif qui a pris feu à Bamenda. Tout cela donc sème tout un vent d'insécurité qui est tel que, malgré le communiqué qui a été rendu public appelant à la levée du mot d'ordre de trêve, malgré les bonnes intentions du gouvernement camerounais, le déploiement des militaires, il faut dire que dans les deux zones du Cameroun, à Bamenda, à Bouya particulièrement, la vie ne tourne pas encore normalement tel que l'aurait souhaité le gouvernement.
Emmanuel Jules Mtap, correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, au Cameroun.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, inquiétude au Nigeria concernant l'état de santé du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien a retardé son retour de vacances au Royaume-Uni pour raisons médicales. Morgan Guiriek.
L'ancien général de l'armée, âgé de 74 ans, devait initialement reprendre le travail hier lundi à Abuja, la capitale du Nigeria. Mais la veille, son cabinet a annoncé qu'il prolongerait son séjour à Londres sur recommandation de ses médecins en attendant les résultats d'une série d'examens médicaux effectués à l'occasion de ses congés. Aucun calendrier n'a été communiqué concernant le retour du président et aucun détail donné sur les examens subis par le chef de l'État, absent depuis le 19 janvier. Les Nigérians inquiets demandent plus de transparence. Il faut dire que la santé du chef de l'État est une question sensible au Nigeria. En 2010, le président Umaru Yar'Adua est décédé suite à des problèmes rénaux longtemps cachés au grand public.
La lutte contre l'insécurité dans le Sahel. Lors du sommet du G5 Sahel lundi à Bamako, les présidents du Burkina Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Tchad ont convenu de créer une force militaire conjointe antiterrorisme. Les détails avec Eric Manirakiza.
Cette force est constituée pour combattre les groupes djihadistes qui se servent notamment du Mali comme base de repli. Baptisé Force conjointe du G5 Sahel, ce sommet de Bamako n'a précisé ni les effectifs, ni le commandement, ni le mode de fonctionnement. Le Nigérien Mahamadou Issoufou a indiqué qu'ils vont demander une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour appuyer sa création. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali avaient déjà convenu le 24 janvier à Niamey de la mise en place d'une force de sécurisation du Liptako Gourma, une région à cheval sur les trois pays. Un communiqué précise quelle sera la composante de la future force conjointe. Le 18 janvier, un attentat suicide a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord du Mali. Cette localité est également un lieu de départ des attaques contre d'autres pays, ont affirmé dans un document les cinq chefs d'État.
En Somalie, les députés et les sénateurs choisissent demain le président du pays, au terme d'un processus électoral entaché de nombreuses accusations de corruption et de fraude. Les détails avec Idrissa Sédoudia.
23 candidats au total, dont le président sortant, Hassan Cheikh Mohamud, briguent le poste de chef de l'État. Le vainqueur sera désigné par 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus. Prévu en août, l'élection du président a été plusieurs fois repoussée. Elle doit ponctuer un processus électoral construit autour du système clanique régissant la politique de la Somalie, privée de véritable État central depuis la chute de Siad Barre en 1991. Dans un rapport publié mardi, l'ONG anticorruption somalienne, Markati, affirme que ce processus entaché de nombreuses accusations de trucage et de marchandage est défiguré par la corruption. Le suffrage universel avait été initialement promis aux Somaliens, mais cet engagement a été abandonné en 2015 en raison de luttes intestines et de tergiversations politiques combinées à une insécurité chronique due principalement aux islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui contrôlent de larges zones rurales et frappent régulièrement Mogadiscio, la capitale.
Et pour terminer, le Malawi et la Tanzanie ont accepté de reprendre les négociations pour résoudre un différend frontalier qui les oppose au sujet du lac Malawi, une zone potentiellement riche en pétrole et en gaz. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Peter Mutharika, le président du Malawi. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.